une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes,
infusée de musique locale
et émergente,
saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bienvenue dans cette apérophonie avec aujourd'hui une interview de Rayesbeck, ou Wael Koudaï pour les intimes, un des magiciens derrière le projet musical Love and Revenge, qui sera en concert le vendredi 21 mars à la Belle Électrique de Grenoble dans le cadre de la soirée d'ouverture du festival Des Tours de Babel. 45 minutes d'interview donc, entrecoupées de 3 morceaux plus ou moins inédits, alors restez branchés sur Radio Campus Grenoble, belle écoute à vous et peut-être à vendredi prochain pour le concert. Alors, ben bonjour Wael, et merci infiniment d'être avec nous sur Radio Campus Grenoble. Je rappelle le contexte de notre interview. Tu te produis avec ton projet Love and Revenge le 21 mars à la Belle Électrique de Grenoble dans le cadre de l'ouverture du festival des Tours de Babel. Pardon. Ma première question, c'est est-ce que c'est la première fois que vous vous produisez à la Belle Électrique ou à Grenoble plus largement ?
Alors, tout d'abord, bonjour. Non, c'est pas la première fois que je joue au Détour de Babel. J'avais déjà joué un autre spectacle à moi, il y a maintenant plusieurs années de cela. Mais à la Belle Électrique, il ne me semble pas être passé dans cette salle.
D'accord, ok, donc vous avez, j'imagine, hâte de découvrir ou redécouvrir cette salle qui, en plus, scénographiquement, a un certain potentiel.
Bah écoute, j'ai vu les images, et puis j'ai vu les plans, parce qu'on est en train de voir comment implanter notre scénographie justement dans ce bel espace. Et c'est vraiment, ça a l'air d'être une salle assez emblématique.
Ouais, tout à fait, qui vient de fêter ses 10 ans en plus, donc c'est une belle manière de fêter ça. Si on revient plus largement sur votre projet Love and Revenge qui date environ d'une dizaine d'années, est-ce que tu pourrais rapidement nous faire la genèse de ce projet, comment vous vous êtes rencontrés et d'où vient toute votre collaboration avec tes deux autres comparses?
Alors Love and Revenge a eu une histoire assez sympathique, puisqu'à la base c'est un projet que j'ai commencé avec Randa Mirza, qui est photographe. Et on était ensemble à la fac à Beyrouth. Donc on se connaissait de la fac, et puis on a eu envie de travailler ensemble. Moi j'avais commencé pour un film, en fait. On m'avait demandé, je faisais une musique de film, on m'avait demandé de retravailler, enfin de revisiter une chanson très connue de Abdel Wahab.
D'accord.
Qui s'appelle Yentel Wahdak. Et j'avais trouvé l'exercice assez intéressant, et puis surtout j'avais... Enfin, le morceau que j'avais fait était assez séduisant. Je le trouvais séduisant. J'en ai fait un deuxième. Et puis, avec Randa, qui faisait à l'époque, qui touchait un petit peu à la vidéo, je lui ai fait écouter. Je lui ai dit, regarde, on avait envie de collaborer ensemble. Bon, je lui ai dit, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être qu'on peut mettre des images. Et puis, très vite, on s'est dit, tiens, il faudrait revisiter ce répertoire, le répertoire de l'âge d'or de la musique et du cinéma arabe, qui est principalement égyptien.
D'accord.
Et au début, c'était Randa et moi, et puis au début, c'était vraiment un DJ set un peu augmenté, quoi.
D'accord.
Pas que DJ, on jouait pas les morceaux tels quels, on les retravaillait. Et Randa jouait des passages de films, vraiment en live. Et de fil en aiguille, on s'est dit, ah, ça serait bien qu'il y ait des musiciens sur scène. Moi, j'étais sur un autre projet avec Mehdi Adab, Oud, électrique, et Julien Perraudeau au clavier. Et comme on s'entendait super bien, je les ai invités à rejoindre le projet. Et on a commencé à tourner quatre sur scène, donc tous les quatre. Et on a fait un album, et puis voilà, on a commencé à tourner. Et puis... avec le Covid, toutes les catastrophes que nous, on a vécues au Liban, parce que le Covid, c'est, j'ai envie de dire, la moindre.
Ouais, c'en est qu'une, oui, finalement.
C'en est qu'une, et c'est pas la plus tragique.
Oui, oui, tout à fait.
Randa a voulu repartir sur des projets photo, donc elle a quitté le groupe. Nous, on continue. Jusqu'à là, il y a un mois, on a fait un nouveau spectacle qui a été commandé. C'est un peu une commande de la Philharmonie de Paris.
Ah d'accord, très bien.
Voilà, sur Oum Kulthoum, parce que c'est les 50 ans de
cette disparition.
C'est l'anniversaire de 50 ans de, voilà, exactement.
Ok. Ah oui, donc c'est assez riche comme collaboration. Et justement, tu parles de... Vous êtes trois donc musiciens sur scène. Je me posais une question. Est-ce que vous avez déjà envisagé ou même fait d'autres collaborations sur scène, d'autres instruments, par exemple, quelqu'un qui viendrait jouer de la percussion ou des cuivres? Ou est-ce que pour l'instant, à trois, ça vous va comme ça?
Alors, pour le concert de la Philharmonie et aussi, mais aussi à la, pour les détours de Babel, on a invité des chanteuses.
Oh!
Qui viennent réinterpréter un ou deux morceaux du répertoire d'Unkelsum. Mmh. Donc, à la Philharmonie, on a invité la chanteuse marocaine Oum et une chanteuse libanaise Tania Saleh. Et à Grenoble, il y aura Tania Saleh sera avec nous.
D'accord, attention, spoiler alert donc pour ceux qui vont nous entendre, mais c'est génial de savoir. Alors désolé, ma prononciation va être beaucoup moins bonne que toi. Je voulais juste revenir sur donc cette commande Agmal Layali. Pourquoi oui. Finalement, de ce que j'ai pu comprendre, pourquoi avoir décidé de rendre hommage plus particulièrement à Oum Kalthoum? Est-ce que c'est juste parce que c'est cette commande ou parce que pour toi et pour vous, elle représente quand même bien plus que cela?
Alors, en fait, tout le long de les 10 années sur lesquelles j'ai travaillé des chansons, j'ai revisité beaucoup de chansons. Mmh. J'ai jamais vraiment touché au morceau d'Oum Kalthoum pour plusieurs raisons. Premièrement, bon, il y a l'aura de la diva, ouais, incontestée, intouchable, indétrônable. Il faut absolument que personne n'y touche, ou alors vraiment essayer de reproduire exactement ce qu'elle a fait, ce qui n'a aucun sens.
Oui, en effet.
À mon avis, autant écouter l'original, pourquoi essayer de reproduire quelque chose qui existe déjà?
Tout à fait.
Et aussi parce que les chansons étaient très alambiquées, c'est des morceaux qui durent, alors le plus court va faire 45 minutes, jusqu'à 1h30, mm-hmm. C'est un peu des symphonies, quoi, avec plein de thèmes, c'est très complexe en fait, sa manière de chanter est très complexe, c'est de la poésie qu'elle des fois scande, des fois chante, elle répète énormément, des fois la même phrase, mais jamais de la même façon. Donc techniquement, on n'était pas, si tu veux, nous, Love and Revenge, c'est vraiment pop, l'esprit, il est pop, c'est de prendre des chansons populaires,
d'accord,
et puis de les rendre électropop.
D'accord.
Et là, c'est populaire dans un sens où c'est popularisé, et les morceaux d'Oum Kalthoum sont populaires, on va dire démocratiquement parlant.
Ouais, tout le monde les connaît, oui.
Voilà, c'est ça, mais côté les structures, les compositions sont pas du tout pop. D'ailleurs, pour l'époque, c'était vraiment une révolution musicale.
Mmh. D'accord. Ah, c'est...
Donc, il y avait un challenge quand, quand Alain Weber m'a appelé, m'a dit, écoute, tu aimerais bien travailler sur Oum Kalthoum. J'ai dit, oulala, attention, parce que là...
attention, ouais.
Ouais, là, on rentre dans un truc, on peut vraiment s'en prendre plein la gueule, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et je me suis dit, non, mais je lui ai dit, écoute, donne-moi une semaine et je te rappelle. Et pendant une semaine, j'ai testé des choses à la maison, dans le studio. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est possible.
D'accord.
Il y a des choses à faire. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans ce projet. Puis j'ai invité ma compagne Joanne Baz à retravailler la vidéo.
D'accord.
Là aussi, c'était assez compliqué parce que comment on retravaille les vidéos d'Oum Kalthoum, elle a filmé, enfin, elle a joué dans 6 films.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus brillant dans sa carrière.
Oui, on la connaît avant tout en tant que chanteuse, oui.
C'est ça, c'est pas une actrice incroyable. C'est plus une chanteuse incroyable, et au-delà de ça, c'est vraiment Oum Kalthoum, c'est vraiment un phénomène musical, sociologique et politique. Ça va plus loin que juste une femme qui a une belle voix.
D'accord.
Ça a développé. Hein, on s'est dit, l'idée de Love and Revenge, c'est vraiment de retravailler le cinéma. Donc on a pris quelques films d'Oum Kalthoum, mais ensuite on a extrapolé vers des films de l'époque d'Oum Kalthoum, des films un peu plus d'auteur, en retravaillant une scénographie un peu différente.
D'accord, c'est principalement donc des films égyptiens, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres nationalités qui viennent?
Principalement. De toute façon, la production arabe, enfin la grosse production arabe était égyptienne. Il y a une fois la production est libanaise, il y a quelques films syriens, il y en a, hein, mais l'Égypte a tellement produit, c'était prolifique, la quantité de films
qu'ils ont fait.
L'Égypte a produit à une époque, c'était
Ouais.
Impossible.
Et est-ce que c'est facile à l'heure actuelle, à l'heure de la technologie, de tomber sur ces archives? Est-ce que c'est facilement disponible et trouvable, tous ces extraits de films que vous utilisez? Ou est-ce que c'est aussi une aventure en soi de trouver tout ça?
Alors, les films, c'est plus facile que les chansons.
D'accord.
Les chansons se trouvent, mais en très mauvaise qualité, des fois.
Ah, oui, oui.
Les films, il y a de tout. Il y a, évidemment, sur Internet, il y a vraiment à boire et à manger. Ouais. Après, pour avoir une belle résolution, pour avoir une belle image, faut quand même, c'est quand même une petite aventure.
Ouais, d'accord. D'accord.
C'est quand même une petite aventure.
D'accord. Et tu disais, donc, qu'il y a eu cette semaine là où de méditation musicale, pour ainsi dire, avant de finalement finaliser le projet. Et comment se sont passés les processus d'enregistrement avec les deux autres musiciens? Comment est-ce que vous avez répété et monté ensemble tout ce projet finalement?
Alors, si tu veux, en fait, la première chose qu'on a faite et qui est assez intéressante, c'est qu'on a utilisé l'intelligence artificielle.
D'accord.
Pour isoler la voix d'Oum Kulsoum du reste de l'orchestre.
Waouh, ok.
Parce que si on prenait les bandes telles qu'elles sont, évidemment, on n'a pas les multipistes du studio.
Oui.
Je ne sais pas qui les a, probablement personne ou un riche collectionneur quelque part.
Peut-être.
Mais nous, on ne les a pas. Donc, on a l'orchestre qui est tout le temps là. Et l'orchestre est très très présent, puisque dans la musique arabe, l'orchestre joue souvent à l'unisson derrière le chanteur ou la chanteuse. Ce qui est assez, assez pénible si on a besoin que de la voix.
Oui.
Et là, il se fait que l'intelligence artificielle, ces deux dernières années, a extrêmement évolué. Et le travail de séparation de voix et
du
reste de la musique est vraiment impressionnant. Surtout, on parle de morceaux enregistrés en 1930 en live.
Ah oui.
Tu vois, c'est pas des morceaux de très bonne qualité.
Ouais, c'est d'ailleurs
des morceaux de piètre qualité. Et la première chose, c'était ça a été, je pense, un tournant dans ce projet, c'est-à-dire isoler la voix. On a la voix, donc elles sont seules. On a l'a cappella, ce qu'on appelle ça une a cappella.
Ouais.
Et à partir de là, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. On pouvait faire plonger dans du hip-hop, plonger dans du trip-hop, aller vers de l'électro, aller vers de la house. Enfin, c'était interminable.
Ouais, tout ce que vous vouliez, quoi. Ouais, ouais.
On pouvait s'amuser comme on voulait. La seule, j'ai envie de dire, le seul obstacle, enfin, c'est pas un obstacle, c'était de garder un tant soit peu l'échelle musicale.
Ouais. Bien sûr.
Et les échelles musicales dans la musique arabe, c'est pas évident. Hein. C'est bon, faut connaître.
Ouais. Ça
se fait que Mehdi est une encyclopédie des échelles musicales arabes.
Ah ben ça tombe bien.
Voilà. Et Julien les maîtrise très bien. Moi je les connais bien. Donc voilà. Mais c'était assez intéressant comme processus créatif. C'était même jouissif, hein, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est assez unique. Ouais. Et donc, ce que tu dis, c'est que l'intelligence artificielle arrive vraiment à isoler la voix d'enregistrement parfois qui date d'il y a quasiment un siècle, mais avec une qualité malgré tout très, très correcte, voire parfaite.
Bah, pas, vraiment assez impressionnant.
Ouais. En effet, ça ouvre un potentiel énorme, en effet.
Et
la question que je me pose, du coup, c'est quand vous êtes en live, et parce que toi, tu utilises des machines, des samples et tout ça, est-ce que votre format, ça laisse quand même une certaine part à l'improvisation, avec parfois des loops qui peuvent se raccourcir, s'allonger, ou est-ce que quand même vous avez une structure de concert assez, assez carrée dans les morceaux?
Les deux.
Okay.
En fait, si tu veux, il y a des rendez-vous qui sont immanquables.
Ouais.
Mais entre les rendez-vous, il peut y avoir des marges de manœuvre, des libertés, des boucles. On se regarde, hein, on n'est que trois sur scène, c'est assez simple.
Oui, c'est sûr.
On dit, tiens, bon, on va faire tourner, tiens, le solo de Mehdi, bien, on va le faire plus long, parce que Mehdi, il est dedans, il est en train de faire un solo de oud. C'est un rocker, Mehdi, donc il envoie. C'est rock'n'roll. Et puis la vidéo, comme elle est jouée en live par Johan qui est en face à la régie, elle va très bien. Elle le sait de toute façon que ce moment-là, on dit qu'il est ad-lib, c'est-à-dire autant que tu veux.
Ouais, tout à fait.
Il y a des moments ad-lib Et donc, ce moment-là, chacun se prépare à se dire, bon, bah, là, il fera 12, 24, 36 mesures.
Ouais.
Il n'y a pas de, voilà.
Il n'y a pas de truc qui est vraiment dicté à l'avance, quoi. C'est vraiment sur le moment que vous voyez comment ça se passe.
Ouais, mais les passages à Lib, hein, le reste, c'est très écrit.
Oui, oui.
On essaie de suivre le morceau. On essaie de quand même garder une certaine cohérence dans les paroles pour les arabophones et les gens qui connaissent le morceau original.
Mmh, mmh.
Parce que c'est quand même des poèmes à la base, c'est pas juste des chansons d'amour, c'est un poème, il se passe quelque chose, c'est narratif,
ouais.
Et donc on essaie de garder un tant soit peu quand même cette,
ouais, cette structure.
Voilà, l'histoire, voilà, mmh. Le narratif, quoi.
Ok, ok. Hop, je reprends le micro au montage post-production, comme on dit, pour le premier extrait musical de cette interview du groupe Love and Revenge, c'est Ya Habibi sur Radio Campus Grenoble. Bonne écoute à vous.
يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
Donc c'est vrai qu'en plus d'une expérience sonore, enfin comme tu dis, c'est votre performance, c'est aussi visuel, c'est esthétique, c'est scénographique. Est-ce que tu disais c'est Joanne qui gère la vidéo, mais est-ce que vous tous les trois musiciens, vous avez quand même aussi participé au choix des extraits vidéo, parce que tu disais qu'il y a beaucoup de films égyptiens, etc. Comment ça s'est passé la sélection des extraits vidéo?
Alors c'est vraiment Joanne qui fait le travail vidéo.
Ok, d'accord.
C'est pas qu'on n'a pas notre mot à dire, évidemment.
Oui.
Moi des fois je vais dire avec ce qui est raconté, avec les paroles, ça fonctionne pas. Je vois pas est-ce qu'il y a un parallélisme à faire avec la chanson ou pas du tout. Mm-hmm. C'est une deuxième narration en parallèle que certains peuvent suivre, d'autres pas. Est-ce qu'il y a une connexion à faire ou pas? Toutes ces questions, bien sûr, Joanne se les pose en amont. Si tu veux, là, on a travaillé différemment parce qu'on a travaillé avec une scénographe, Pia de Compaigne, qui a décidé en fait d'avoir plusieurs écrans.
Ah,
donc
d'accord.
On a cinq écrans, mais assez longs, assez fins et assez longs, qui font 6 mètres de haut et 2 mètres de large, sauf celui du milieu qui est plus large. Mmh. Et l'idée de Joanne, c'était de faire des collages vidéo sur ces 5 écrans pour avoir plus un objet vidéo qu'une histoire narrative. Donc l'idée, contrairement aux deux premiers Love and Revenge,
ouais,
où on était vraiment montré les archives telles qu'elles sont, là c'est retravailler les archives pour vraiment faire un objet vidéo différent de ce que c'était.
D'accord.
Donc c'est un peu une approche différente.
Ouais.
On a privilégié le noir et blanc parce que Oum Kalthoum, on n'est pas dans de la pop glamour. Oum Kalthoum, c'est très très sérieux.
Ouais, oui, tout à fait.
C'est une dame qui impose un certain respect. On n'est pas, c'est pas.
C'est pas n'importe qui.
Voilà. Et puis c'est pas le fun que peut avoir les artistes comme Sabah avec des cheveux. Tu vois, la coiffure années 80, ambiance, et puis les paillettes, on n'est pas là-dedans.
Ouais, c'est assez classique, ouais.
On est dans quelque chose de très poétique, de très fin. Donc c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude, nous.
D'accord. Et du coup, sur les 5 écrans qu'il y aura dans la scénographie, du coup, les 5 écrans vont diffuser, projeter les mêmes images, ou il y aura aussi des jeux, justement, un peu de différents écrans qui projettent différentes choses?
Des fois, les 5 écrans s'unissent et ça devient une grande image.
Ouais, voilà.
Et des fois, il y a des passages de différents films qui viennent comme former une sorte de collage vidéo.
Ah oui, d'accord. Trop bien.
Et ça crée une œuvre en soi.
Ouais, ça doit être un sacré travail, ouais.
Voilà.
Ah ouais, d'accord, d'accord. Alors j'avais une question un peu plus terminologique sur les différents sites qui présentent et annoncent vos concerts. On parle de tarab électronique. Est-ce que, puisque tu es là, est-ce que tu pourrais nous définir avec tes propres termes ce en quoi ça consiste, le tarab?
Alors, le tarab, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, tout le monde confond tout. Mais même dans le monde arabe, le tarab n'est pas un genre musical.
Ah, c'est déjà bien de le souligner.
Voilà, mais ça l'est devenu, si tu veux, parce que même dans le monde arabe, ils disent, tiens, tu écoutes du tarab. En fait, le tarab, c'est une émotion, c'est un moment que tu vis où la musique t'emporte vers différentes émotions.
D'accord, donc il y a quand même un lien avec la musique, c'est ça?
Alors, ça peut être la musique, ça peut être la poésie.
Ah, d'accord.
C'est souvent la musique. C'est souvent la musique, mais ça peut aussi être la poésie, par exemple.
Un autre art, quoi.
Ça peut être un autre art, mais c'est vrai que c'est très, très lié à la musique.
D'accord.
Et donc, c'est l'émotion que tu vas ressentir. C'est vraiment, si tu veux, être transcendé, être transporté par cet élan musical et donc vivre presque dans une autre réalité.
Ok, d'accord.
Donc ça peut être triste, c'est plusieurs émotions, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie, ça peut être le bonheur, l'euphorie, c'est souvent assez extrême, comme ça peut être la colère, mais c'est ça, c'est ce que tu vis en écoutant un certain genre de musique. Alors, il se fait que toutes les musiques ne sont pas tarab friendly.
D'accord.
Une musique plus pour danser. Là, c'est pas, on parle pas de tarab.
D'accord.
Là, on va dire, c'est une musique qui fait danser. Tarab, faut vraiment vivre les paroles. Et puis, il y a des gens qui pleurent dans la scène. D'ailleurs, D'ailleurs, à la Philharmonie, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit j'ai pleuré pendant tout le spectacle. Mm. Je pense que c'est cette émotion-là.
C'est ça.
Mm. Qui est talab.
D'accord, mais par extension, un peu par abus de langage, finalement, c'est devenu une sorte de genre musical un peu protéiforme à part entière.
Bah, disons qu'aujourd'hui, on n'en fait plus.
D'accord.
Donc, ça a été un peu stigmatisé d'un certain genre musical et puis d'une certaine époque. C'est vrai que c'est souvent des morceaux très longs. Et on est transporté par la répétition, par le côté très long de la chanson qui nous transporte. C'est un voyage.
D'accord. Et donc, vous présenteriez comment votre projet musical et ce spectacle-là ? C'est du tarab électronique ou c'est un peu tout ça à la fois ?
Moi, je pense que tarab électronique, oui, ça fonctionne bien.
Ok. Okay.
Je pense, oui, vraiment. Okay. J'ai du mal à coller des étiquettes.
Oui.
C'est vrai que d'un morceau à l'autre, nous, on s'amuse beaucoup.
Ouais.
On passe beaucoup dans différents styles musicaux.
Ouais.
On ne s'est pas dit, tiens, on va faire du clubbing, on va faire de la deep house sur la voix d'Unkensu, mais ça sera que ça pendant une heure.
Oui.
On s'est dit, tiens, que peut-on faire ?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on aimerait faire ?
Mm-hmm.
Du coup, ça nous a envoyé dans des choses assez différentes.
Oh, oui, bien sûr. Puis, pas besoin de coller d'étiquettes, comme tu dis. D'ailleurs, dans une des interviews que j'entendais de toi, tu expliques que votre projet, il vise à mieux faire connaître cette musique et même cette filmographie arabe à une jeune génération. Et je me demandais, à l'heure où tu parlais d'intelligence artificielle, à l'heure où la technologie permet de se procurer ou d'écouter, de partager de la musique très facilement, très rapidement, est-ce que tu sens cette nouvelle génération friande et réceptive à ces sonorités-là ?
Alors pour moi il y a deux univers.
Mmh.
Enfin, pour moi il y a deux mondes. Il y a le monde virtuel et il y a le monde réel.
D'accord. Est-ce que tu peux préciser ?
Et dans le monde virtuel, ce que les gens partagent et ce qu'ils regardent, je n'ai aucune idée. Je suis très peu dans le monde virtuel.
Mmh.
J'y suis de moins en moins. Et ça m'intéresse vraiment de moins en moins.
D'accord.
Je pense que c'est en train de nous happer notre vie et de nous engloutir dans un truc assez malsain.
Ouais.
Dans le monde réel, c'est-à-dire quand il y a des musiciens sur scène et qu'il y a un vrai public, et non pas des likes qu'on partage en 3 secondes.
Mmh.
Parce qu'aujourd'hui, le temps d'attention et de 3 secondes sur un téléphone. C'est quand même impressionnant.
Ouais, c'est très, très peu.
Là, c'est-à-dire que là, on s'est dit qu'on allait faire une interview de 30 minutes. Mmh. Je me demande aujourd'hui qui va tenir jusqu'au bout.
Ouais, en écoutant ça, ouais.
C'est ça, tu vois. Dans le monde réel, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, en ont un peu marre du monde virtuel et justement ont envie d'être plus présents, d'être entourés de vraies personnes, de voir des performances, pas que musical d'ailleurs, et de vivre une expérience.
Tout à fait.
Et c'est vrai que un projet comme le projet Unkensu, si tu n'es pas arabophone, si tu ne connais pas Unkensu, c'est pas évident. Tu vas t'accrocher au reste, à notre arrangement, c'est-à-dire, alors nous, on envoie aussi de l'électro.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc tu vas t'accrocher à ça, mais effectivement. Il faut être ouvert d'esprit et se dire, moi, je vais aller vivre une nouvelle expérience.
Ouais.
Et moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent.
D'accord. Parce que j'imagine, tu parles aussi peut-être d'un public plus averti, finalement. Enfin, vous visez du coup un public très large en termes de génération.
Pas nécessairement. De différentes générations. Tu sais, dans Love and Revenge, on a eu des gens vraiment de toutes les générations.
D'accord.
C'est pas un public averti. Je pense que c'est un public qui est curieux.
Ouvert, ouais, ok. Ouais, ouais.
Voilà, donc, cette curiosité de se dire déjà, moi je prends le bus et je me déplace, j'achète un billet et puis tiens, je vais rentrer voir ce concert.
Ouais, ouais, d'accord.
Je connais pas, je découvre et puis je vais passer un bon moment, je vais peut-être passer 5 bonnes minutes qui vont m'ouvrir les oreilles, les yeux, je vais avoir des étincelles. C'est ça qui m'intéresse.
Ouais, là, je comprends.
Aujourd'hui, ça devient très compliqué. Les gens sont assez. Et vraiment, je pense que les réseaux sociaux nous ont happé notre esprit. Les gens. Ils sont pris par le scrolling, qui nous lobotomise, parce qu'en fait, tu fais 10 minutes de scrolling, tu as 50 000 informations qui ne sont pas connectées l'une à l'autre, et donc tu as du mal à te concentrer sur une seule chose.
Ouais, que tu ne mémorises même pas, oui, bien sûr.
Bah, bien sûr, non, mais c'est du garbage, c'est du junk.
Ouais, je comprends. Alors pour revenir peut-être à des choses plus joyeuses, vous avez quand même pas mal voyagé, pas mal tourné, j'ai l'impression. Et est-ce que même en Norvège, j'ai cru comprendre, est-ce que le public et votre audience à chaque fois, justement, était curieuse et assez réceptive à vos sonorités, à votre univers? Est-ce que ça marchait bien?
Ouais, en fait, c'est un projet qui a vraiment beaucoup voyagé. Je pense qu'on a dû faire 150 dates dans 25 pays différents.
Ouais, je voyais à peu près ces chiffres-là sur les sites. Ouais.
Quelque chose comme ça. On a eu des publics qui n'étaient ni arabophones, ni anglophones. Mm-hmm. On a eu des publics où, même quand on leur parlait anglais, ils étaient... Mais malgré ça, je crois qu'il y a vraiment le langage musical.
Ouais.
Il y a aussi ce qui se passe en vidéo,
ouais,
qui attrape tout le monde parce que tu retrouves des codes que tu connais déjà.
Ouais.
Les codes de l'électropop, les codes du cinéma, les actrices, les chanteuses. Et donc, ça parle à tout le monde.
Ouais, j'imagine bien.
C'est très intéressant. Bon.
D'accord. Et je voyais justement dans les performances live qui rappellent vos tournées d'avant, il y a quand même, j'ai l'impression, une large place qui est aussi laissée à la danse. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez spécifiquement avec le public, le fait que tout le monde se lâche et danse, ou est-ce que ça dépend justement un peu des formats et des moments?
En fait, ça a commencé à un moment où on s'est retrouvé à jouer dans des salles de théâtre où les gens étaient assis.
Ah bah oui. C'est pas le...
Et c'est vrai que nous, ça envoie quand même un petit peu de son. Mmh. Et au bout d'un moment, on sentait que les gens, ils étaient un peu frustrés. Et
ouais.
Donc, on s'est dit, tiens, sur les deux derniers morceaux, ou les trois, je sais plus, on va les inviter à venir sur scène.
Ah, carrément.
Carrément à monter sur scène, et on va tous danser ensemble. Et je pense que c'était aussi une réponse à cette frustration du public.
D'accord. D'accord.
Après, moi, je suis pas un partisan. Enfin, je pense pas que c'est un projet. C'était pas un projet dansant.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, c'est plus un projet où tu écoutes, tu regardes. Si t'as envie, si t'es debout avec une bière, tu danses, super. Mais si t'es assis, c'est vraiment.
C'est très bien aussi.
Oui, c'est très bien aussi. Il y aura un moment où les gens vont se lever parce qu'ils seront frustrés, mais ouais. c'est pas du clubbing, quoi.
Hop, retour en post-production de cette apérophonie. J'espère que vous passez toujours un bon moment. Vous voyez que cet échange est quand même très riche, hein, musicalement, sociologiquement parlant. Et ce deuxième extrait, donc, du groupe Love and Revenge, que vous pourrez écouter donc vendredi 21 mars à l'Appel Électrique ou ailleurs, hein, bien entendu, s'appelle Enta Omri. C'est donc toujours sur Radio Campus Grenoble dans cette interview du groupe Love and Revenge dans le cadre du festival Détour de Babel qui fait son ouverture vendredi prochain. Vous allez voir, ça dépote encore, et en termes de sonorité, c'est très éclectique, très intéressant. Alors bonne écoute à vous. Voilà donc pour cette version live de Enta Omri du groupe Love and Revenge. On reprend tout de suite l'interview de cette apérophonie sur Radio Campus Grenoble. Bonne écoute à vous. Et justement, t'en parlais un peu auparavant, votre démarche, elle rend hommage aux œuvres des années 50, 60, 70, grosso modo, qui est un peu une époque, je t'entendais dire, d'appropriation, voire de réappropriation de toute cette culture arabe par sa population. Mais c'est aussi, je trouve, une époque de remise en question de la vision un peu occidentale, colonialiste qu'on peut avoir. Je crois que c'est en 1978 que Edouard Saïd y publie son essai sur l'orientalisme. Est-ce que votre projet il vise aussi à revaloriser cet héritage pour montrer un peu toute l'essence, l'authenticité et sortir un peu des clichés qu'on a sur le monde arabe?
Absolument, surtout aujourd'hui, je veux dire, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et politiquement, socialement, la France est profondément divisée, et pas que la France, hein, le monde entier, mais l'Europe et la France particulièrement, profondément divisées, et on stigmatise les Arabes et les musulmans de manière assez systématique et surtout dans les médias, mais pas que, malheureusement, dans certaines institutions étatiques.
Ouais.
Et je pense que notre projet, à sa petite échelle, hein, je suis assez conscient, hein, je pense que ce projet a aussi pour objectif de dire aux gens, attendez, le monde arabe, c'est pas ce que vous voyez sur les médias mainstream. Le monde arabe est beaucoup plus complexe, diversifié. Il y a de tout, hein, dans le monde arabe. Et je pense que cette musique, ce cinéma, cette culture, qui n'est pas accessible au public occidental, la rendre accessible et venir expliquer la profondeur, quand même, le monde arabe. On parle de 22 pays, on parle de je sais pas combien de millions
d'habitants,
de personnes. C'est très 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 complexe. Ça ne se résume pas à la violence, etc. Donc oui, montrer un nouveau visage du monde arabe, montrer un visage post-colonialiste qui se détache justement, qui prend son essor, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'Oum Kalsoum, mine de rien, a vécu trois colonisations, la colonisation turque, la colonisation anglaise, et ensuite la colonisation israélienne. Donc trois fois, son pays se fait coloniser, et elle est toujours dans la lutte socialement, mais aussi politiquement. Elle devient le binôme de Abdel Nasser. Elle combat les sionistes quand ils envahissent le Sinaï. Elle les combat avec vraiment culturellement, mais aussi avec de l'argent. Elle donne ses bijoux, elle donne tout son argent à l'État, à l'armée égyptienne pour libérer le Sinaï, etc. Donc il y a cette volonté de dire nous voulons être autonomes. Et musicalement, cinématographiquement parlant, ça, on le retrouve.
Oui, ouais, bah c'est super intéressant que tu fasses tout cet éclairage, d'autant que Oum Kalsoum, pardon pour la prononciation, c'est en plus de cela une figure féminine, et c'est quand même pas gagné de rendre hommage aussi à des figures féminines, donc c'est un peu un double objectif, j'ai l'impression, de votre part.
Absolument, surtout qu'Oum Kalsoum, bon, non seulement c'est une figure féminine, mais c'est quelqu'un qui a complètement révolutionné le social égyptien, parce que quand elle monte sur scène et qu'elle est debout, et derrière il y a une dizaine d'hommes, les musiciens, l'orchestre, qui sont tous assis, et qui sont tous amoureux d'elle, et qu'en face d'elle il y a 1000-2000 personnes qui sont pour la plupart, au début d'ailleurs, que des hommes, qui sont également assis, elle arrive à imposer un respect à 360 degrés, c'est assez impressionnant. C'est pas quelqu'un qui s'est laissé guider par un producteur ou par un compositeur, c'est quelqu'un qui disait non, mais ça, ce passage-là, moi, il ne me correspond pas, je ne veux pas le chanter comme ça.
Et un point, c'est tout.
Voilà, elle disait, c'était vraiment quelqu'un, c'était une entrepreneuse, c'est quelqu'un qui tenait la barque, c'était elle qui guidait, quoi.
Ouais.
Et un détail qui n'est pas du tout un détail, c'est qu'au début, les femmes ne venaient pas à ces concerts parce que se mélanger aux hommes, c'était assez compliqué. Les hommes, ils voulaient. À l'époque, les chanteuses, c'était la plupart des chanteuses de cabaret, un peu sexy, aguicheuses. Et Oum Kalsoum vient dire non, nous, on va jouer dans un théâtre. Il n'y a rien de sexy, il n'y a rien d'aguicheur. On n'est pas du tout dans le sex appeal. On est dans le respect, on est dans la grande poésie arabe, dans la grande musique arabe. Et elle va dire aux femmes, et vous pouvez venir vous mêler aux hommes. Ici, c'est un safe space.
Ouais, donc déjà à l'époque.
Absolument. Absolument. Et ça va encore plus loin. Donc non seulement son théâtre, enfin son espace devient un espace de sécurité pour les femmes, où les femmes peuvent s'asseoir à côté des hommes, regarder des concerts. Il n'y a aucune embrouille, parce qu'elle impose ce respect. Et ensuite, ce qu'elle commence à faire, c'est qu'elle demande aux poètes qui lui écrivent des poèmes. Alors, il faut savoir que c'est très moderne pour l'époque. Aujourd'hui, c'est traditionnel, mais à l'époque, c'est très moderne. Déjà, elle leur demande de pas écrire en arabe classique.
D'accord, ok.
Elle veut qu'on parle le langage égyptien de l'époque, le langage de la rue, parce qu'elle s'adresse principalement au peuple.
Ouais, aux gens de la rue.
Ouais, absolument, absolument. Et elle demande à utiliser un langage neutre. Donc elle veut pas que ça soit ni féminin ni masculin.
Ah oui, ça va jusque là.
Bien sûr, parce que bon, Umm Kulthoum, beaucoup pensent qu'elle n'était pas hétéro, qu'elle était probablement homo, mais que bon, l'époque n'acceptait pas qu'elle fasse un coming out. Effectivement,
ouais, ouais.
C'était un peu compliqué, mais tout le monde, c'était un secret de Polichinelle, tout le monde le savait moins. Et il y a une photo qui circule où elle embrasse une femme. Elle s'est jamais mariée, enfin si, avec son médecin quand elle a eu 60 ans, mais bon, c'est pas un vrai, vrai mariage.
Ouais, ouais.
Et donc elle est et ses textes commencent à être neutres. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que chacun l'interprète comme il veut. Les uns disent bon bah c'est une chanson, elle parle aux femmes, non, elle parle aux hommes. D'autres disent non, elle parle à un être divin, elle parle à Dieu. Et donc, chacun y va de son interprétation, mais quand même, elle impose un safe space et un ton neutre. On est dans les années 30, hein.
Ouais, ce qui paraît complètement anachronique, quoi. Ça paraît fou.
Complètement, complètement. Elle a compris le rôle de la femme. Elle porte jamais le voile, mais elle reste très élégante. Et donc, elle donne une force à la femme arabe qui est complètement inégalée.
Ouais.
Je veux dire, au-delà de ses chansons, hein.
Parce que est-ce que c'est justement alors bon, c'est certes une personne unique, une diva totalement singulière, mais est-ce qu'il y a d'autres personnalités féminines qui même lui arrivent à la cheville? Est-ce qu'encore aujourd'hui on arrive à avoir cet héritage là où justement il y a eu un peu un retour de bâton depuis qui fait que bah c'est beaucoup plus difficile que ça?
Bah aujourd'hui l'industrie a complètement changé. On est dans de la quantité mais moins dans la qualité. On est vraiment dans, enfin, si tu veux, aujourd'hui, il y a l'univers mercantile qui a pris le dessus. Tout est à vendre, tout est à acheter. À partir de là, la poésie, je veux dire, pour trouver des gens qui, pour trouver des poètes aujourd'hui, faut vraiment chercher.
Ouais.
Parce que ça part de là, hein, ça part de la grande poésie arabe. Il faut savoir que la poésie arabe, à l'époque, enfin, de toujours, c'est un art qui est presque sacré. C'est-à-dire que Mahmoud Darwish, par exemple, le grand poète palestinien, lui, il remplissait des stades de foot parce qu'il avait un nouveau poème et qu'il allait le lire.
Ah ouais, d'accord. Ah oui.
Tu vois le délire. Donc, si tu veux, la poésie et la musique arabe, c'est deux choses. Le monde arabe est complètement attaché à la poésie, et à la musique. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est dans un truc plus commercial qui est beaucoup moins intéressant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des divas qui arrivent à la cheville d'Umm Kulthoum? Moi, j'ai envie de dire non. Est-ce qu'ils essaient? Non plus. C'est pas commercialement, c'est pas intéressant.
Oui.
Ça s'arrête là, malheureusement.
D'accord. Est-ce que malgré tout, toi, tu es franco-libanais, vous avez beaucoup voyagé avec ton groupe. Est-ce que, peut-être pour notre audience, pour faire découvrir quand même quelque chose à notre audience, est-ce que tu as des noms d'artistes ou des noms de musiciens, musiciennes de, je sais pas, la génération émergente musicale qui, quand même, ont un peu aussi cette ambition, cette volonté de redorer soit la poésie arabe, soit la musique à plus large échelle. Est-ce que tu as des noms en tête?
Ça, c'est une bonne question. Là, en tête, non. Il y a des projets plutôt performatifs qui revisitent la poésie arabe, notamment Mahmoud Darwish. Mais après, il n'y a pas que Mahmoud Darwish, c'est le plus connu, mais c'est pas. Des poètes arabes, il y en a beaucoup. Mais non, musicalement, j'en connais pas beaucoup, hein, vraiment. J'en connais très peu.
Bon, c'était une question comme ça. Et je me demandais, justement, après ce projet Agmal Layali, est-ce que vous avez déjà d'autres idées en tête pour la suite? Est-ce que toi, tu as d'autres envies, d'autres projets pour travailler d'autres œuvres par la suite?
Oui, des idées, c'est pas ce qui manque.
Ouais, j'imagine.
les idées, c'est pas ce qui manque. Après, se dire parmi le tas d'idées de brainstorming, toutes les idées qu'il y a sur la table, laquelle est la bonne. Parce que finalement, il y a tout un côté production qui est pas négligeable. C'est-à-dire se dire, est-ce que c'est réaliste? Mm-hmm. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça peut tourner? Est-ce que, tu vois, enfin, ouais, il y a plein de questions qu'on se pose, des questions très tangibles, des questions très, de logistique, assez simples, hein. Moi, là, j'ai un projet en tête, j'ai envie qu'on soit 15, et j'ai pas envie qu'on soit sur scène, mais ça tournera jamais, personne fera tourner
un truc de 15, ouais.
Mais oui. Ouais. Sauf, tu vois, on fera peut-être 5 dates. Donc, il y a aussi une réalité, économique, une réalité liée à la production, surtout que bon, aujourd'hui, faut pas se mentir, la culture en France bat de l'aile, les coupures budgétaires, ça fait très très mal à tout le monde.
Ça c'est sûr, ouais.
Donc, ce qui se passe, c'est que la plupart des groupes, malheureusement, réduisent leurs effectifs, donc ils sont, au lieu d'être 5, nous on est 3 sur scène, mais en fait on est 7 sur la route.
Ouais, dans l'équipe, ouais.
Bah oui, ingé son, ingé lumière, vidéaste, enfin, c'est tout un projet, c'est pas... Et là, ce qui se passe, c'est que tout le monde fait des duos ou des DJ sets pour continuer à tourner. Et je trouve ça triste parce que pour moi, la musique, c'est un moment de partage. Et bon, faire un DJ set, c'est sympa, pourquoi pas. Mais si ça devient ça, ton projet principal, alors qu'à la base, tu as un projet de groupe qui est plus complexe, avec des compos, avec... ça veut dire que la culture a reculé.
Ouais, si ça devient la norme, ça veut dire que c'est un peu une sorte de niveler par le bas, quoi.
Autour de moi, tous les groupes que je connais, bon bah, il y en a un qui fait DJ, l'autre qui fait, enfin,
ça s'appauvrit un peu.
Ça s'appauvrit, bah oui, ça s'appauvrit, mais parce que les budgets sont revus à la baisse.
Eh oui, malheureusement, c'est un peu toujours la même histoire. Hop, je reprends le micro une troisième et dernière fois pour donc le troisième et dernier extrait. C'est toujours l'interview dans l'apérophonie de Radio Campus Grenoble pour le groupe Love and Revenge qui se produira le vendredi 21 mars à la Belle Électrique de Grenoble à 20h pour une soirée exceptionnelle d'ouverture du festival Des Tours de Babel avec Makoto San aussi qui partagera la scène. Vous avez vu qu'avec Rayes Beck, aka Wael Koudaï du groupe Love and Revenge, il y a quand même beaucoup de choses à dire, notamment des considérations musicales, sociopolitiques également. Et donc, pour ce dernier extrait qui s'appelle Time El Gira, vous allez entendre à nouveau des sonorités électroniques, pop, teintées de musique orientale, arabe, appelons ça comme on peut. En tout cas, c'est le dernier extrait de cette apérophonie. Alors, très belle écoute à vous, et à tout de suite pour le reste de l'interview.
We'll be right back.
J'avais encore quelques questions, si bien sûr tu as encore le temps.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Je me demandais, donc toi, sur scène, enfin, de manière générale, tu es plutôt sur les machines, sur les samples. Je me demandais tout simplement comment tu en es arrivé à ces instruments même. Comment tu en es arrivé là?
Moi, à la base, je viens du hip-hop.
Donc, d'accord.
Voilà, quand j'étais sur scène, j'étais au micro.
Ah.
Moi, je suis un des premiers à avoir, au Liban, je suis un des premiers à rapper en langue arabe. D'ailleurs, même dans le monde arabe, on était 3 ou 4. Je te parle dans les années 90. Hein.
Mm-hmm.
Et donc, j'étais au micro pendant, j'ai fait, je sais pas, 10, 15 ans de hip-hop en arabe, un petit peu en français, mais principalement en arabe. Et un jour, j'ai un peu changé de direction et j'ai eu envie de faire autre chose et je faisais mes prods.
Ah, okay.
Donc j'étais beatmaker, j'avais mes boîtes à rythme, mes synthétiseurs, mes sampleurs.
Mm-hmm.
Et petit à petit, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux en faire? J'ai plus envie d'être au micro, j'ai plus envie d'être au devant de la scène. J'aimerais bien être derrière, mais j'aimerais bien être un peu le plus compositeur qu'auteur.
D'accord.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, n'étant pas instrumentiste, je ne joue pas de guitare ou de...
D'autres instruments.
Moi, je suis autodidacte.
Ok.
Voilà, je suis comme beaucoup de beatmakers, je suis autodidacte. J'ai commencé avec des samples et des synthés, ce que j'avais sous la main. Et puis petit à petit, j'ai appris des choses.
Ouais, t'as développé ta pratique. Développé, ouais.
Et donc, je me suis retrouvé, voilà, à vraiment un peu comme quelqu'un qui fait la direction artistique d'un projet, quoi.
D'accord. D'accord. Et c'est intéressant que tu parles de hip-hop, on parlait de poésie avant. Est-ce que tu as des artistes du monde hip-hop, alors qu'ils soient arabes ou même internationaux, est-ce que tu as des artistes hip-hop qui t'ont toujours marqué et influencé encore aujourd'hui?
Moi, comme j'ai grandi, j'étais gamin dans les années 80, et évidemment, le rap français m'a beaucoup, beaucoup influencé, notamment IAM et compagnie, hein, Fab. Enfin, j'ai beaucoup écouté le hip-hop français pendant des années, aussi le hip-hop américain, Wu-Tang, mais vraiment le old school des années 90.
Ouais.
Après, ce qui se passe aujourd'hui, j'ai moins suivi.
D'accord.
Je pense quand ils sont passés à la trappe, pour moi, j'ai toujours dit, une bonne chanson de hip-hop, c'est une chanson que tu peux lire. Donc si tu prends le texte, tu le lis. Si tu le trouves intéressant, écoute la chanson. Si le texte n'est pas intéressant, j'ai même pas envie d'écouter la chanson.
Ouais, d'accord.
Aujourd'hui, sans vouloir généraliser, je suis pas sûr que j'accroche énormément sur les textes des chansons aujourd'hui, quoi.
D'accord, bah c'est une opinion qui se respecte tout à fait. Et tu disais, enfin, t'as grandi au Liban. Est-ce que justement les artistes IAM, les autres Américains, est-ce que c'est quelque chose qui se trouvait, qui pouvait s'écouter facilement au Liban?
Non, c'était
sous la Manche.
Fallait attendre que quelqu'un. Non, c'était même pas, ça n'existait pas. Personne n'en voulait, ça n'intéressait personne.
Ah ouais.
Il fallait, oui, c'était pas du tout, si tu veux, le monde n'était pas mondialisé comme maintenant, il n'y avait pas Internet. Moi, je me souviens, comment il s'appelait, Ombre et Lumière, un des premiers albums ou le deuxième album de Diane.
C'est ça.
On me l'a filé en cassette et j'ai fait une copie, tu sais, avec la double cassette.
Ah oui, à l'ancienne.
À la maison, mais complètement. Bah, à l'ancienne, à l'époque, c'était ça.
Oui.
Et c'était un pote qui venait de France, il m'a dit, tiens, regarde, il y a ce groupe, c'est sympa. Et moi, ce qui m'a accroché, c'est un morceau que je trouve jusqu'à aujourd'hui atemporel. Il est génial. C'est le morceau J'aurais pu croire.
Ah oui, oui, oui.
J'aurais pu croire. C'est un morceau qui est super politique, qui va parler des États-Unis, de Palestine, qui va parler, enfin, qui est incroyable, ce morceau, de l'Iran. Tu l'écoutes, t'as l'impression qu'ils l'ont écrit hier. Ouais. Il date de 1993.
Tout à fait. Mais en plus, tu parles à un Marseillais, donc c'est vrai que tu touches une corde sensible aussi avec Ayam.
D'accord. Ouais, moi, je suis Marseillais depuis 3 ans aussi.
Ah, ben voilà. Et est-ce que t'as eu l'occasion, finalement, de les voir en concert, tous ces groupes qui ont fait ta jeunesse?
Alors, c'est con, ils sont venus à Beyrouth à l'époque où j'y étais, et non, j'ai pas pu les voir.
Aïe, aïe, aïe.
Je pense que je n'ai jamais vu un concert de hip-hop français. Parce que j'étais pas en France.
Tout à fait, c'est vrai. Ah bah c'est quelque chose qu'il faudra réparer hein, un jour ou l'autre.
Bah écoute, j'espère.
Bon, j'ai une dernière petite question pour toi. D'ici vendredi prochain, qui est donc le jour de votre concert à la Belle Électrique, qu'est-ce que tu nous conseilles d'écouter ou de voir ou de lire, peut-être pour mieux se plonger dans l'univers que vous allez nous faire explorer?
Ah ouais.
C'est une vaste question. Alors... vaste question. Hein.
Alors c'est très grand, c'est très large parce que je pense qu'aujourd'hui vraiment il y a tout un mouvement musical électro-oriental mm-hmm. qu'on appelle électro-oriental, mais c'est vraiment un titre très occidentalisé.
Ouais,
parce qu'en fait, oriental, ça ne veut rien dire. Mais électro-arabe, faudrait dire, je pense.
D'accord.
Il y a pas mal de groupes. Tu vois qu'on peut écouter. Alors évidemment il y a Acid Arabe, oui. Ça tout le monde connaît.
Oui, oui.
Mais par exemple il y a Bedouin Burger que j'aime beaucoup.
Ok.
Qui est un vieux pote à moi libanais avec une chanteuse syrienne. Je trouve ça magnifique. Il y en a énormément. Il y a Kasbah, il y a Khalil Epi. Il y en a beaucoup. Il y a des Tunisiens. Ah il y a Guedra.
Ok, faut que notre audience écoute tout ça, faudra qu'on note tout ça.
Ouais, après c'est à découvrir. Il y en a, en ce moment il y en a pas mal et vraiment la qualité est au rendez-vous.
Ah, ça c'est chouette.
Vraiment, je dis pas, c'est pas voilà, c'est pas parce que c'est mes collègues, vraiment Et là, j'en ai cité que 3 ou 4, il y en a beaucoup plus.
Mmh, oui, mais j'imagine que ça se limite pas qu'à ça, ouais. Mais c'est déjà un bon échantillon qu'on essaiera de faire partager. Et d'ailleurs, vendredi prochain, vous partagez la scène avec un autre groupe, Makoto San. Est-ce que tu as entendu parler d'eux? Est-ce que tu connais?
Alors, bien sûr, oui. Je les connais pas personnellement, mais je connais leur travail. Et puis, je connaissais avant de voir qu'on partageait la scène avec eux. Je trouve que c'est super, l'univers est absolument incroyable. Je trouve ça très très créatif, les instruments, les costumes, j'ai hâte d'ailleurs de les voir sur scène.
Ouais, donc finalement vos deux univers d'une certaine manière vont bien se compléter, enfin, ça va être une soirée assez intense et assez riche.
Je pense que ça va être une soirée assez sympathique, je pense que les gens vont vraiment découvrir deux univers très différents, mais assez complémentaires.
Ah ben bah trop bien. Bon, en tout cas, on sera les premiers à Radio Campus Grenoble à être devant pour vous écouter. Ça fait déjà 45
Super.
Minutes et je te remercie infiniment pour ton temps et pour tous tes éclairages.
Bah, c'est moi.
Je rappelle que tu joues donc avec ton projet Love and Revenge vendredi prochain, le 21 mars, à la Belle Électrique de Grenoble. Et puis écoute, d'ici qu'on se croise vendredi prochain, je te souhaite une très bonne semaine et encore merci pour tout.
Et ben bah, c'est moi qui te remercie.
Et très bonne journée, à bientôt.
Merci, au revoir.
Et c'est sur ces belles paroles donc que nous quittons avec Rayasbek aka Wael Koudaï, un des trois musiciens donc du groupe Love and Revenge, qui proposera vendredi 21 mars à la Belle Électrique de Grenoble le spectacle Agmal Layali. Ça promet vraiment d'être assez incroyable. Je rappelle qu'il y a également le groupe Makoto San qui va se produire. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, ça sera la soirée d'ouverture du festival Détour de Babel. Comme vous l'avez compris au travers de cette interview, de cette apérophonie, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de richesse, beaucoup de diversité, de profondeur dans la musique de ce trio. Donc vraiment, je vous invite à aller écouter, à aller un peu lire et vous renseigner là-dessus. Et bien sûr, à vous rendre vendredi prochain pour les voir en live. Ça promet d'être vraiment très éclectique, très électrique même. Ça va danser, je pense, un peu à tout va. En tout cas, merci infiniment à Rayasbek pour son temps, pour sa patience, pour ses explications. Merci à l'équipe de Radio Campus Grenoble pour avoir permis cette apérophonie et cette interview à la technique vraiment très pointilleuse mais impeccable. Merci également à l'équipe de la Belle Électrique et du Festival des Tours de Babel d'avoir facilité et permis cette interview. On lance tout de suite le jingle de fin de l'apérophonie. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de soirée et à très bientôt. Portez-vous bien.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !